Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, nouvelle édition de COP Nord, une édition exceptionnelle puisque évidemment on va parler du derby qui a lieu ce week-end, mais c'est aussi les 1 an de cette émission, alors on va profiter de ce premier anniversaire pour déjà vous remercier vous d'être chaque semaine plus nombreux à nous regarder sur BFM Grand Lille ou BFM Grand Littoral, sans oublier évidemment les réseaux sociaux. Merci tout particulier à Théodore Anjon qui réalise chaque semaine cette émission et sans qui évidemment COP Nord ne serait pas. On n'oublie pas Freddy Cochin et Philippe-Antoine qu'on remercie pour leur confiance. Et puis merci aussi à tous ceux qui participent à cette folle aventure parce que mine de rien c'était un vrai défi qu'on nous avait lancé. Faire participer en direct des supporters lillois et des supporters lensois chaque semaine, ça semblait complètement fou. Et ça tient encore 1 an après, alors merci à vous, à ceux qui sont là depuis le départ de cette aventure. Merci Adrien Bonnereau, journaliste à Horizon, bonsoir.
Merci Vincent et bonsoir.
Merci Patrice Clairaud, secrétaire des Docs d'Honneur.
Merci Vincent.
Qui nous accompagne depuis tout le début. Et puis à ceux aussi qui ont rejoint l'aventure en cours de route. Guillaume Bataillé par exemple, journaliste à Europe 2, bonsoir Guillaume.
Bonsoir et bon anniversaire.
Merci beaucoup, merci toute l'équipe, te remercie. Mais on va dire que c'est pour moi. Et Mohamed, donc, supporter du Racing Club de Lens.
Bonsoir, merci et joyeux anniversaire.
Ben merci beaucoup. Peut-être juste, vous deux, votre meilleur souvenir de ce que vous retenez de cette année de COP Nord.
Moi, j'ai un souvenir, mais je pourrais pas le citer. Juste une petite anecdote sur la première émission de cette saison, mais voilà, j'ai les protagonistes principaux se reconnaîtront, c'était
ils
amusant.
Se reconnaîtront,
mais bien sûr, le petit quiz de fin de saison l'année dernière, c'était très sympa, on s'est bien amusé, il y avait tout le monde, donc c'était cool.
Moi, j'en ai un. C'est l'arrivée de Pat après un match qui était au
match contre Reims. Le match venait de se terminer. Effectivement, on se souvient que Patrice avait oublié que c'était pas la pub, c'était une virgule.
Je sais pas si Adrien parle le même que moi. Mais moi j'en pense à un où il s'est passé quelque chose juste avant la prise d'antenne.
C'est le même.
Où il y a eu un fou rire, notamment avec Simon, qui était un grand moment.
On restera sur ce fou rire.
Le
dossier est clos.
D'ailleurs, on a joué contre Brest, ça s'appelle les petits F.
Veuillez pourquoi. On va donc parler, pas de ça, on va pas revenir non plus éternellement sur cette aventure, mais on va parler donc de l'après-Coupe du Monde, qui est toujours aussi difficile pour le Racing Club de Lens. Un nouveau match nul pour les Artésiens face à Montpellier ce week-end. L'enchaînement des matchs pourrait être pointé du doigt, alors que les Sang et Or jouent mercredi en Coupe de France. C'est au bout d'une soirée de tension que le LOSC s'est imposé contre Brest. Pourtant, une nouvelle fois mené contre un adversaire qui a peu tenté sa chance, les Dogs ont pu inverser la vapeur, mais pas la pression. Et puis, 6 points séparent donc ces deux équipes qui s'affrontent ce week-end. Retour du derby cette fois à Bollard, samedi à 17h. Le LOSC va-t-il revenir à 3 points de son adversaire ou Lens pourra prendre 9 points d'avance sur les Dogs? Analyse et pronostic ce soir. On n'oublie pas de se donner rendez-vous sur les réseaux sociaux, le hashtag COPNord, pour suivre cette émission en direct. Et on commence donc par ce nouveau match nul pour le Racing Club de Lens à Montpellier, score final 1 partout. Résumé de la rencontre avec Walid Benani.
Les sourires de 2022 ont laissé place aux discussions en 2023. Contrat en match nul 1 partout à Montpellier samedi, malgré l'ouverture du score précoce d'Angelo Fujini. Le RC Lens n'arrive pas à sortir de sa mauvaise passe. Les Sang et Or n'ont gagné qu'un seul de leurs 6 derniers matchs de Ligue 1. Et leur dernier succès à l'extérieur en championnat remonte à novembre dernier avant la Coupe du Monde. Malgré 19 tirs à la Mosson, les Lensois n'ont marqué qu'un but. Les hommes de Franck Haise sont 4e du championnat. Place désormais à la Coupe de France mercredi, un déplacement à Nantes pour une place en demi-finale.
Et s'il fallait commencer par quelque chose, ce serait donc par les VCP, les statistiques de cette rencontre. 62% de possession lensoise, des Sang et Or qui ont beaucoup plus tenté leur chance. 19 tirs dont 6 cadrés contre 8 tirs dont 3 cadrés du côté de Montpellier. Juste Adrien, je vais me tourner évidemment vers toi pour commencer ces top et flop. On t'a vu vraiment hocher de la tête, vraiment dodeliner même presque sur... en fait, c'est le but Montpellier qui t'a un peu agacé.
Ouais, c'est ça. Et puis, c'est surtout le manque d'efficacité lensoise. Ça fait plusieurs matchs qu'on a beaucoup de mal. Après, Kevin Danso, pour sa barre transversale, je vais pas lui en vouloir. Il est défenseur, mais pour moi, même en tant que défenseur, ça doit finir au fond. Mais bon... C'est le jeu partout, mais à chaque fois on domine, comme tu parlais de statistiques, que ce soit en passe réussie, en possession, mais on n'arrive pas à concrétiser cette domination. Ça devient un peu long. Mon flop, Thomasson, qui n'a pas réussi à peser dans le jeu comme il a su le faire depuis qu'il est arrivé, il sort légèrement blessé en plus. Donc,
flop voilà. Thomasson, Mohamed, tu es d'accord avec lui?
Oui, mais moi j'aurais mis quand même Sotoka en flop pour... Son inefficacité, c'est toujours imbattant, il court dans tous les sens, mais au moment de conclure, il n'est pas présent. Quoi.
Et on continue ce tour de flop.
Je suis entièrement d'accord, Sotoka, ouais, parce qu'il rate beaucoup d'occasions, même si c'est compliqué avec Sotoka, parce que ce n'est pas vraiment son poste. Il n'est pas trop à l'aise avec ce poste d'attaquant de pointe. Mais il se démène toujours, donc on a du mal à lui en vouloir. Mais il y a un moment, faut la mettre il la met pas dedans. Quoi. C'est ça le problème.
Pourquoi il insiste autant à Francaise à le mettre en pointe et pas à mettre Openda ? C'est qu'il manque quelqu'un au final ?
C'est qu'il est surtout là pour occuper tous les postes de l'attaque, voire du milieu offensif quand quelqu'un est blessé. Quoi. Donc c'est un peu l'homme à tout faire, comme le disaient les camarades. Donc à un moment, Sotoka, il joue énormément de matchs aussi, donc à force de l'utiliser, le faire changer de poste constamment, il s'y perd un peu, donc c'est un peu compréhensible aussi que les prestations ne s'enchaînent pas parfaitement. Quoi.
Patrice, ton flop ?
Sotoka également. On va pas innover, mais je suis complètement d'accord avec Guillaume. Il joue pas à son poste, c'est pas un neuf.
Du tout.
Alors je pense que Lens a été pénalisé par l'absence de Buxa, on n'a jamais su ce qu'il valait réellement. Il n'y a pas de neuf pour jouer, Openda joue pas, c'est un mystère. Je pense qu'il s'est passé quelque chose à un moment ou un autre qui fait qu'il est sur la touche aujourd'hui. Mais c'est vrai que Sotoka, on peut lui en vouloir de ne pas la mettre dedans, mais ce n'est pas son poste et ce n'est pas son rôle aussi sur le terrain.
Il a tendance à rentrer en fin de match, qui est blessé aussi. Voilà. Donc il faisait un peu la différence en début de saison.
Et très rapidement, Adrien, ton top ?
Mon top, alors qui je voulais mettre ? Fulgini, parce qu'il s'est vraiment bien intégré au collectif, à son poste. Il a mis 2 buts depuis son arrivée. Il a débarqué au club très récemment. Donc ouais, j'ai bien aimé son efficacité. Certains auraient pu se croire hors jeu et laisser peut-être couler l'action, mais lui, il a poursuivi. Donc c'est tout à son honneur et j'aime beaucoup ce qu'il propose sur le terrain.
Mohamed ?
Fulgini également, et j'ai beaucoup aussi apprécié la rentrée de Openda. Qui a apporté un peu plus de... qui a apporté de la vivacité et puis de la percussion devant.
Guillaume ?
En top, j'aurais mis Danso, parce qu'on retrouve le Danso taille patron, comme on l'avait pu le voir ces derniers mois. Et là, ces derniers matchs, on voyait un Danso un peu plus fébrile que d'habitude. Et là, on retrouve le Danso, il perd jamais de dunel, que ce soit aérien ou à terre. C'est le Danso qu'on adore.
Patrice, Danso aussi.
Alors, moi, la défense dans sa totalité. Lens s'est beaucoup appuyé pendant le début de saison sur son milieu de terrain avec Abdoul Samed et Fofana, qui sont beaucoup moins bien aujourd'hui. Mais ils ont trouvé une vraie assise défensive sur les trois, là, avec Grady. Mais Medina et Danso. Et effectivement, c'est très costaud. Et Danso, c'est celui qui sort des trois sur les derniers matchs, effectivement.
Et ça fait donc match nul un partout. Et on peut écouter Francaise qui était au final déçu de ce résultat.
Considère un nul sur un match qu'on aurait dû gagner. Voilà, c'est ce que je retiens. Montpellier a, si je ne dis pas de bêtises, une occasion et demie nette. Mais pourtant, ça fait match nul. Et la semaine dernière, même si on avait gagné le match de Nantes, on avait eu énormément d'occasions contre une occasion et Nantes avait marqué. Bien sûr qu'on peut faire de bonnes choses. Et on en a fait encore ce soir, je n'ai pas de doute là-dessus. Mais des matchs comme ça, il faut les emporter. Il faut les emporter, donc être plus efficace. Des deux côtés, et ça n'a pas été le cas.
Adrien, même Mohamed, c'est typiquement ce genre de match que Lens remportait avant la Coupe du Monde et a un peu plus de mal dans ce genre d'opposition maintenant, depuis le mois de janvier ?
Ouais, après on parlait surtout de trêve de la Coupe du Monde qui allait faire une toute nouvelle saison pour Lens parce que c'était justement une trêve qui arrivait au moment propice à chaque fois que Lens flanchait un peu. Au final, non, ils ont juste flanché un peu plus tard parce que tout le monde est, je pense, un peu fatigué. Il y en a qui jouent énormément de matchs. C'est on parlait d'efficacité défensive, mais Francaise le dit très bien. Le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est sur une occasion, un but. Et la moindre erreur défensive, alors que Lens est quand même la meilleure défense de Ligue 1 encore, je crois, se paye cash. Contre Nantes, on en avait mis 3. Efficacité offensive, l'erreur défensive n'a pas coûté cher. Là, en l'occurrence, comme on marque qu'à une seule reprise, je vais y arriver. Ça nous coûte très cher, 2 points, quoi.
Et depuis la Coupe du Monde, à noter que Lens est 11e avec 14 points sur 30 possibles. Mohamed, cette forme du moment, ce manque de réalisme, ce que disait il y a quelques semaines Francaise, ce manque de réalisme non seulement dans la phase offensive, mais aussi dans la phase défensive, ça t'inquiète ? Je vais même poser la question plus concrètement, à une semaine du derby ?
Non, moi ça ne m'inquiète pas du tout. Moi je continue à croire que c'est un petit passage à vide et que le club va rebondir.
Qu'est-ce qu'il faut pour rebondir alors ? C'est laissé passer, ça reviendra, c'est juste un manque de réussite ?
Oui, c'est un manque de réussite et puis aussi un retour des joueurs qui sont blessés parce que bon, on a en attaque Saïd qui n'est pas là, on a quand même perdu Cabo qui a apporté énormément, Claude Maurice qui commence à trouver sa place et qui est également blessé. Et effectivement, pour moi, il y a ces blessures à répétition qui joue énormément dans la forme actuelle.
Lens et Lille, ils ont un peu les mêmes problèmes. Mmh. C'est une efficacité.
Ouais.
Mmh. C'est ça. On croirait parler de Lille quand on parle de Lens parfois. Mmh. Parce que ça propose du jeu, ça va vers l'avant. Et puis, ils ont combien 5, 6 occasions. Sotoka, il en a 3, il en met pas.
Ouais,
c'est compliqué. On dirait Lens parfois. Mmh. Lille, pardon.
Pour revenir sur la gestion même de l'effectif, donc on l'a dit, Lens joue mercredi en Coupe de France à Nantes. Un match en plus que les Lillois n'ont pas, puisqu'ils ont été éliminés au pénalty contre
Lyon.
Évidemment. Justement, laquelle gestion pour vous doit avoir Francaise ? Est-ce qu'il doit faire souffler contre Nantes, sachant que ça reste un quart de finale de Coupe de France ? Est-ce qu'il fait, si vous tournez contre Lille, pour vous, quelle est la gestion la plus adaptée ?
Le problème, c'est qu'il y a un match en plein milieu de la semaine pour une des deux équipes, comme tu le dis très bien. On l'a vu justement, ça a fait le même effet pour Nantes. S'ils considèrent trop la coupe, en l'occurrence c'était la Ligue Europa pour Nantes, ils ont pris 3 buts contre Lens. Donc là, c'est à Lens de bien jauger, peut-être faire jouer directement un Labo Lascari qui pourrait apporter, même malgré son jeune âge, peut-être une solution offensive en tant que titulaire que Francaise avait déjà essayé en Coupe de France il y a 2 tours ou au tour précédent. Donc c'est de faire tourner. Mais pour moi, je pense que Lens a la capacité, malgré le fait que l'équipe joue 2 fois en une semaine, de remporter et le quart de finale face à Nantes et le derby.
Alors, est-ce qu'il va y avoir de la rotation dans le 11 titulaire lensois entre toutes ces rencontres ? La réponse à demi-mot de Francaise.
3 matchs, c'est pas non plus anodin, surtout avec le fait qu'on joue mercredi fin d'après-midi et qu'on rejoue samedi et que notre adversaire, lui, n'aura pas rejoué. Donc forcément, il y a quand même certains éléments à prendre en compte. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à la fois beaucoup de joueurs de l'effectif peuvent enchaîner 3 matchs. Ou débuter 3 matchs et qu'en même temps aussi j'ai un certain nombre de joueurs qui commencent les matchs sur le banc et qui aussi sont en capacité d'être des titulaires. Alors, en tout cas à certains postes, il y a des postes où j'ai moins d'interrogations par rapport à ce que je vois dans la semaine, mais il y a des postes où j'ai plus d'interrogations.
Alors 2 statistiques très rapidement, aucun but pour un attaquant depuis 7 matchs de Ligue 1 pour Lens, c'était Openda qui avait marqué face à Strasbourg, le dernier but de Sotoka remonte lui à Lyon, c'était en octobre, et puis défensivement aussi le dernier clean sheet, c'était il y a plus de 6 matchs, c'était le 14 janvier contre Auxerre. Voilà pour les statistiques, l'état de forme du moment côté de Lens, on reviendra évidemment sur les pronostics avant derby, c'est dans quelques instants, juste après la pub, à tout de suite. On est de retour dans Cop Noir sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. On va maintenant revenir sur la victoire du LOSC face à Brest. Résumé de la rencontre, signé Walid Benani.
Ces Lillois-là sont renversants, assez renversants pour faire tomber Brest vendredi soir après avoir été mené au score au bout d'un match tendu et particulièrement disputé. Une rencontre qui s'est jouée sur coup de pied arrêté. D'abord, c'est Thiago Diallo qui ouvrait le score sur corner contre son camp, 1-0 pour Brest. Avant que Bafodé Diakité sur corner à nouveau, puis Alexandro à 10 minutes du terme, n'offre une victoire importante aux Lillois. De quoi ne pas lâcher dans la course à la 5e place avant le derby face à Lens samedi, puis Lyon le 10 mars prochain.
Et c'était un match à sens unique hein, au Stade Pierre-Mauroy, quoi qu'en pense Eric Roy. Les Lillois ont eu près de 70% de possession, 18 tirs à seulement 3 et 4 tirs cadrés seulement côté Lillois. Aucun côté breton, c'est Diallo qui a marqué contre son camp, donc ça compte même pas comme un tir cadré. Les tops et flops, messieurs, de cette rencontre, je me tourne vers toi Patrice, on va commencer par ton top.
Alors le top, c'est les deux André, Benjamin et André Gomez au milieu. C'est la seule chose qu'on peut retenir de ce match qui est probablement le plus mauvais match depuis le début de la saison. Mais comme il y a eu un grand débat depuis quelques temps, est-ce qu'il faut jouer bien pour pas perdre ou perdre, etc. Là, on a très mal joué, mais on a gagné et on a pris les points. Donc je pense que l'essentiel...
Donc comme la perte de milieu...
Ah ouais, la perte de milieu, c'est quand même... Benjamin André, il a une activité sur le terrain qui reste à tout moment, il est là. Et puis André Gomez, c'est talent pur, effectivement.
C'est le beau joueur.
Ah ouais, c'est un vrai, vrai beau joueur.
Le plus beau panic buy de l'histoire du LOSC.
Oui.
Ah, clairement.
Moi, mon top, c'est Alexandro, parce qu'il a remporté tous ses duels, il a délivré Lille. Et puis, ça le permet de le relancer, parce que ça faisait super longtemps qu'il n'avait pas été titulaire.
Il y a plusieurs semaines qu'il était redescendu dans la hiérarchie, derrière José Fond, derrière Thiago Diallo, derrière Lenny Yoro. Adrien,
j'avais pense que tu partages exactement les mêmes arguments. On en a parlé avant l'émission, 100% de duels remportés, 4 aériens, 4 au sol. J'ajoute une petite stat pour dire deux.
Bossé,
voilà,
ouais.
C'est ça. Mais ouais, puis il est buteur en plus. Et voilà, ça a été dit, il reprend un peu de confiance, sachant qu'il avait été mis de côté. Donc, Alexandro.
Mais même dans la relance, il est super intéressant, je trouve.
Ouais, ouais, franchement.
C'est pas, il tente parfois quelques gestes d'Anax qui sont pas forcément toujours rassurants.
Pas forcément hyper dangereux lors du match, en tout cas.
Oui, du moins contre Brest,
Mohamed. Moi, c'était Alessandro aussi. Il revient de loin, je trouve. Il a été mis de côté, comme tu disais, et pour moi, il a fait un très bon match.
Je pense que Alessandro, je pense que Fonseca a une intelligence. C'est qu'il l'avait, il a jamais mis au placard réellement. C'est que Yoro est passé devant, mais il le garde, entre guillemets. Alors, je sais pas, on va pas dire sous pression, parce que j'aime pas ce terme-là, mais il le garde bien au moment qu'il faut le faire jouer sur ce match-là, sur Brest, parce que Fonte, en plus, est blessé, parce que c'est après le choc à Paris.
Il vient faire jouer sa taille, voilà, en fait.
Et il le fait jouer, et il le laisse effectivement dans l'équipe, il le met pas complètement de côté.
Ouais, puis Yoro, il a fait quelques boulettes ces derniers matchs, donc ouais, alors, peut-être jouer.
Yoro fait des boulettes, mais quand il fait son entrée à Paris, après 8 minutes... vous remplacez Fonte, il fait un gros match à Paris, donc on peut pas lui reprocher à 16 ans. Mm-hmm. Et je pense que garder toujours Alessandro comme ça sous la cocotte, quoi. Donc
reste à voir s'il arrivera à tenir la cadence aussi quand même, Alessandro.
Non, mais je pense que c'est un joueur qui tiendra un match par-ci, un match par-là, mais qui est toujours présent parce que Fonseca sait le garder justement à ce niveau-là.
Alors très rapidement, Patrice, ton flop, juste le nom.
Cabella.
Thiago Jallo.
Paulo Fonseca, je sais pas ce que vous parlez de la tension en fin de match.
Ouais, parce qu'il est rentré dans le jeu d'Éric Roy, qu'on connaît un petit peu, et après voilà, c'est vraiment pour choisir un peu un flop, et c'est vrai qu'il est rentré dans le jeu d'Éric Roy, et il aurait pu se montrer plus intelligent, et c'est une sanction. Alors,
et l'entraîneur lillois qui donc a pris un carton rouge, ouais. Il s'en est expliqué à la fin de cette rencontre, écoutez.
J'ai eu une discussion avec le coach adverse. Il se plaignait de la perte de temps. Je lui ai dit qu'il avait oublié ce qu'il avait fait juste avant, pendant la rencontre. Après, il y a eu de la confusion, c'est normal, mais je n'ai pas parlé avec l'arbitre. Si on est dans la même situation, pourquoi l'arbitre ne punit qu'un seul camp ?
Alors il faut quand même qu'on parle, on va débriefer très rapidement
juste si on met Fonseca, moi j'enlève Cabella alors de mes flops et je vais mettre Monsieur Gayouz à la place.
L'arbitre
clairement, d'habitude je ne suis pas sur les arbitres du tout, mais il n'a pas su du tout tenir le match, il y a plein de choses qui sont passées dans les faits. Alors, il avait tellement de sorties de carton à Metz-Guingamp en début de saison qu'il n'en sort plus un seul aujourd'hui. S'il avait calmé le jeu, je pense que ce qui s'est passé aussi sur le banc de touche à la fin, ce ne serait pas passé.
Voilà, donc ça c'est pour le coup de gueule de Patrice qui était sûrement au stade ce week-end, qui a tout vu, lui, de ce qui s'est passé sur le banc. On va parler aussi de ce qui s'est passé dans les équipes. On a vu donc le premier but signé Diakité, le latéral droit qui s'est blessé pour au moins un mois. Ça peut changer sacrément les plans de Paulo Fonseca.
Oui, parce que alors, on a eu en plus ce débat sur l'arrière droit pendant le mercato, le post-mercato, et bon, malheureusement Diakité se blesse. Après, je pense qu'il a quand même... On a quand même quelques possibilités.
Et tu sais quoi tes possibilités pour le derby? Tu vois qui à gauche, qui à droite?
Moi, je pense qu'il va faire jouer... juste comme ça, Gouéa va rester. Ouais, de toute façon, ça c'est clair, sur le côté gauche. Je pense que l'autre côté, il est capable de mettre Yoro, Jallo et Fonte. C'est ce qu'il faisait à une époque, et dans ces cas-là, c'est le troisième... Parce que Yoro pourrait monter un peu plus. Le troisième qui pourrait descendre, qui va jouer un peu plus bas pour moi, ça va être Benjamin André, qui va aussi venir couvrir derrière. C'est ce qu'il faisait quand il était au Shakhtar. Il jouait comme ça souvent avec un 6 qui était entre le 6 et vraiment la défense centrale.
Alors en tout cas, le derby évidemment est déjà dans toutes les têtes, même celle des joueurs. Écoutez Lucas Chevalier.
Lundi, on va se mettre en mode derby. On sait ce qui s'est passé à l'aller, que ce soit pour moi ou pour l'équipe. C'était magnifique, mais voilà. Hein, écoutez... C'est une nouvelle histoire et puis on va essayer de faire la même chose qu'à l'aller. Hein. Écoutez, après c'est un derby, c'est avant tout pour les supporters. J'espère que ça se passera bien.
On espère que ça se passera bien aussi avec les supporters. Peut-être, il devrait y en avoir des supporters lillois, normalement, au stade Bollaert, en espérant là aussi que tout se passe bien et qu'on évite de revoir certains scénarios qu'on a détestés ces dernières années. On va maintenant évidemment passer à vos pronostics. Il y a peut-être des choses à gagner, tiens, sait-on jamais. On peut lancer un concours comme ça, vous pouvez nous les envoyer via le hashtag CopNord sur Twitter. Patrice, ton pronostic ce week-end?
Un nul.
0-0, un partout, tu vois des buts?
Je vois très peu de buts. Je pense que le match sera beaucoup plus fermé que ce qu'on pense. Parce qu'on rentre dans le money time, ça va devenir un match en jeu. Il y a 6 points seulement entre les deux équipes. Soit il y en a un qui va vraiment passer devant, soit l'autre va vraiment recoller. Et pour moi, non, ça va faire un nul. Ça va être beaucoup plus fermé que ce qu'on imagine.
Pourtant, c'est deux équipes qui jouent. Hein.
Ouais, mais je pense qu'il y a vraiment l'enjeu. Il va y avoir vraiment de l'enjeu là, sur ce match-là.
Ton pronostic ?
Victoire de Lille, puisque Lens se déplace à Nantes. Ça va être compliqué. Après, moi, l'interrogation, c'est comment va se comporter Lille sans son entraîneur ? Il est suspendu. Je sais pas si
aujourd'hui ça change.
Je crois que ça change plus grand chose avec les moyens de communication.
Je suis d'accord, mais Fonseca, c'est quand même quelqu'un qui communique beaucoup avec ses joueurs. Enfin, et puis tout ce qui ressort de lui, par exemple, moi je pouvais rejoindre mes collègues sur le flop. Fonseca, il doit garder son calme. Mmh. Et puis ça déteint sur les joueurs. On avait vu que les joueurs, ils étaient super nerveux face à Brest. Donc je sais pas comment vont se comporter les Lillois par rapport à ça.
Un score ?
2-1 pour Lille, allez.
2-1 pour Lille, Mohamed.
2-1 pour Lens.
2-1 pour Lens. Et Adrien ?
0-0, je vois deux équipes qui font le jeu se neutraliser et puis Pat parlait de l'enjeu qui se dessine un peu plus, donc un match très fermé ou sinon l'occasion pour l'attaque lensoise de se réveiller un peu.
On peut vraiment pas vous séparer tous les deux. Allez, on regarde un coup d'œil au classement maintenant. Lens qui est désormais donc 4e avec 50 points, 10 points derrière Paris. Lille 6e avec 44 unités, on l'a dit ce week-end, les deux équipes qui ont rendez-vous au Stade Bollard pour le derby, mais avant cela, Lens qui joue son match de Coupe de France, ce sera mercredi à Nantes. Et on passe maintenant au résumé de ce week-end de sport signé Walid Benani.
Nouvelle déception samedi pour Valenciennes à domicile cette saison face à Dijon. Tout s'est joué en seconde période. Les nordistes encaissent le premier but moins de 5 minutes après leur retour des vestiaires. Piqué au vif, les rouges et blancs passent à l'attaque et renversent tout. Le festival de Mohamed Kaba réchauffe le stade du Hainaut. Puis c'est au tour de Garbić de donner de l'air à son équipe sur pénalty. Valenciennes laisse filer la victoire dans les derniers instants de la partie. Le portier de VA manque sa sortie et permet à Dijon d'égaliser. Quatrième match sans victoire pour Valenciennes, 13e de Ligue 2. En volée, Tourcoing a perdu le Nord samedi devant l'adresse et la puissance des Narbonnais. Narbonne, meilleure équipe à l'extérieur cette saison. Défaite frustrante, 3-7-0 du TLM qui aurait pu assurer sa qualification pour les playoffs avec un petit point de prix. Rendez-vous samedi à Nice pour une nouvelle chance. 92-52, 40 points d'écart. Villeneuve-d'Ascq n'a laissé aucune chance à Landerneau. Les Bretonnes diminuées par des blessures avant et pendant le match. Dans les premières minutes, Laura Evrard se bloque notamment le genou après son entrée en jeu. Loin d'être perturbée par le public chaud du LBB, les Villeneuvoises ont déroulé. Plus 12 après le premier quart-temps, plus 24 à la pause. MVP de la rencontre, l'Américaine Kennedy Burke, auteur de 23 points. Avec 14 matchs joués pour 11 victoires, le SBVA toujours bien placé en championnat pour rejoindre les playoffs en fin de saison.
Et c'est déjà de nouveau la fin de cette édition de Cop Nord. Merci Patrice, merci Guillaume, beaucoup. Mohamed et Vincent. On se retrouve très vite. Le derby donc c'est samedi. Merci à Théo Derangeon pour la réalisation de cette émission. Merci à la rédaction d'RMC Sport. On retrouve cette émission sur nos sites internet et en podcast sur Spotify. On se retrouve lundi pour débriefer ce fameux derby. À la semaine prochaine. Salut.